Bonjour et bienvenue dans Les Voix de Service, mardi 24 avril 2018. Nous ne sommes plus trois, nous sommes deux dans le studio. J'ai gardé avec moi Jean-François Roy. Bonjour Jean-François.
Bonjour Louis.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Je suis particulièrement de bonne humeur.
Excellent, encore plus que d'habitude,
oui.
Si c'était possible. Nous avons, perdu entre guillemets Jean-Charles Algan. Il reviendra dans 2-3 mois. Il est allé faire tout simplement le tour du Canada, d'est en ouest. Voilà, je suis certain qu'il nous écoute là tout de suite dans la voiture. Si vous le voyez, faites-lui coucou de notre part et puis on le retrouvera dans 2 mois et demi environ. Quels sont les sujets aujourd'hui, Jean-François?
Vous voulez connaître mon menu, Louis?
Toujours.
Ben, je commence en force. C'est une magnifique histoire où se côtoient jeunesse et vieillesse. En deuxième sujet, ben récemment, c'était le jour de la Terre. Dimanche dernier, on soulignait ça. Les articles sur le sujet se multipliaient. J'en ai retenu un pour vous, où est-ce qu'on dresse un petit peu un bilan, pas nécessairement reluisant. Par contre, mon troisième article apporte une solution.
Une touche d'optimisme.
Une touche d'optimisme.
Oh, c'est
voilà.
Merveilleux.
Voilà,
coup de théâtre.
Voilà. Et je garde le meilleur pour la fin. Tous rêvent de devenir heureux. Alors, oui. Je vous présente les 6 recettes secrètes, les 6 règles à suivre pour atteindre le bonheur.
Ce
sera notre auditoire.
Secret du
oui,
bonheur
voilà, notre
aujourd'hui.
Auditoire l'aura en premier lieu.
Sacré menu, j'ai bien fait de le demander, effectivement. Pour ma part, comme d'habitude, des insolites, des étonnantes. Nous parlerons d'un Indiana Jones de 13 ans, c'est possible, on peut commencer à tout âge. Également d'un voleur fantôme au Japon, recherché par tout le pays tout de même. Et puis un peu d'espoir également, nous parlerons de plastique, de ce problème, et j'ai une ou deux solutions pour vous. C'est dans quelques instants, dans les voies de service.
C'est une très belle histoire qui nous est présentée. En fait, c'est paru le mardi dernier, le 17 avril, sur le site d'ici Radio-Canada, Mauricie, centre du Québec. Être étudiante et habiter une résidence pour aînés. Joliane Plante a 20 ans. Ses 115 locataires ont en moyenne 82 ans. Depuis le mois de février, l'étudiante loge gratuitement à la résidence Les Marronniers à Trois-Rivières et en échange de 10 heures de bénévolat par semaine. Elle est l'heureuse élue qui a su se distinguer après une petite annonce qui a fait beaucoup jaser. C'est un texte de Marie-Ève Trudel. L'offre de loyer gratuite à la résidence a abondamment circulé sur les médias sociaux. Une vingtaine de candidats ont été retenus pour une entrevue de groupe. Joliane Plante, qui étudie en psychoéducation, s'est démarquée par sa joie de vivre, sa bonne humeur et son intérêt marqué pour les personnes âgées. « Tout de suite, ça m'a attiré », dit-elle. « Oui, le loyer gratuit, mais travailler avec les personnes âgées. C'est une clientèle que j'aime et c'est réciproque. » Depuis qu'elle est ici, ça nous rajeunit, dit une résidente, Germaine Bellemare. C'est bon pour le moral et ça fait du bien de voir des jeunes. On dirait qu'il y a plus d'amour dans la bâtisse. Elle a apporté quelque chose de bien gros. C'est mentionné par Jean-Louis Arcan, qui est résident. Reste que la vie en résidence pour personnes aînées est à l'autre bout du spectre de la vie en résidence pour étudiants. Pourtant, elle ne se verrait pas ailleurs. Je suis chez nous, mes amis le savent que je suis dans une résidence et c'est bien correct comme ça, dit-elle. Bien sûr, le calme est de mise à la résidence, mais ce serait le cas dans tout autre logement, nuance-t-elle. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de couvre-feu, explique Joliane, qui invite ses parents et amis à l'occasion. Pour la direction de la résidence, pas question de revenir en arrière. C'est un extra chez nous, dit la directrice générale Nancy Comtois. C'est un membre de plus dans la famille. Ils prennent soin de moi autant que moi, je prends soin d'eux. Joliane Plante, étudiante. Un modèle qui s'exporte? L'initiative inspirée des Pays-Bas serait unique au Québec, mais peut-être plus pour longtemps. J'ai été interpellée par d'autres résidences qui avaient des questions à poser, dit Nancy Comtois. Le projet intrigue à ce point que la directrice générale a été invitée à participer à un forum sur la cohabitation intergénérationnelle qui aura lieu le 25 mai à Montréal dans le cadre de la première semaine québécoise consacrée à ce sujet. À Trois-Rivières et dans les environs, le taux d'inoccupation des appartements est de 10,5% dans les résidences pour personnes âgées, selon les plus récentes données de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Quand on a des appartements libres, pourquoi ne pas le faire? C'est bénéfique pour eux et pour moi, dit Joliane Plante. Moi, ça m'aide financièrement, veux-veux pas, et dans mon travail et en tant que personne. Et pour eux, ça amène de la vie. Je tiens à préciser que la photo qui accompagne cet article est vraiment magnifique et révélatrice. On voit un très grand piano avec plusieurs aînés autour et parmi eux, Joliane qui est là et qui semble exprimer un éclat de rire. C'est vraiment une très, très belle histoire.
Et après les aînés, parlons des plus jeunes également. Jean-François, vous souvenez-vous de ce que vous faisiez à 13 ans?
Vaguement.
Quelques souvenirs.
Oui.
Moi, je me souviens que je lisais pas mal. Je lisais des histoires d'Indiana Jones, notamment. Eh bien, certains décident de le devenir et deviennent des aventuriers. Je vous raconte l'histoire de cet enfant de 13 ans qui découvre un trésor, le trésor d'un roi du 10e siècle. Il faut remonter loin. Un enfant de 13 ans, aidé un petit peu par un archéologue amateur, c'est vrai, mais tout de même, ont découvert sur l'île allemande de Rügen un trésor unique ayant pu appartenir au roi Harald à la dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark ou à sa cour. Le trésor est composé de centaines de pièces, de perles, d'un marteau de Thor, de broches et d'anneaux brisés, rapporte lundi l'agence allemande DPA, citant l'archéologue amateur René Schön et l'Office archéologique régional. Monsieur Schön et l'écolier Lucas, alors je vais probablement écorcher son nom, Malachitschenko, voilà, j'espère que c'était bien dit, ont fait la découverte d'une pièce en janvier à l'aide d'un détecteur de métal dans un champ près de la localité de Chaprode, sur cette île en mer Baltique. Et les autorités locales ont procédé à l'excavation du trésor les 14 et 15 avril dernier. Une centaine de pièces semblent dater du royaume de Harald Ier, qui a régné, vécu plutôt, entre 910 et 987. Roi unificateur qui a rejeté les croyances vikings et a lancé la christianisation du Danemark. Des pièces plus anciennes et provenant de contrées très éloignées ont aussi été retrouvées, notamment un dirham de Damas transformé en bijoux datant de 714. Les pièces les plus récentes datent des années 1980, pas 1900, 980, ce qui laisse croire que ce trésor a pu être caché par l'entourage de Harald Ier, qui après avoir perdu une bataille contre son propre fils en 986, avait fui vers la Poméranie où il est mort un an plus tard, selon la littérature du Xe siècle. Nous avons ici un cas rare lorsqu'une découverte a l'air d'être en lien avec des sources historiques, explique l'archéologue en chef de la région allemande. Le trésor de Chaprode est une découverte unique en son genre. Des bijoux datant de la même époque avaient été découverts non loin de là, sur l'île de Hiddensee, à la fin du XIXe siècle. Les historiens de la région considèrent aussi que ces objets précieux ont pu être cachés lors de la fuite du roi. Harald à la dent bleue, vous ne le savez pas. Probablement pas, mais on l'utilise quasiment tous les jours, en tout cas on en parle. Parce que Harald à la dent bleue, qui selon les différentes légendes doit son surnom à une dent dévitalisée, ou à une erreur de traduction, c'est selon, est une figure historique importante dans l'espace nordique, et c'est par exemple en son honneur que la technologie de communication sans fil Bluetooth a été baptisée. Et oui, ça vient de là. Le symbole du Bluetooth est d'ailleurs un mélange de deux lettres d'alphabet runique représentant les initiales du roi Harald, comme ça vous savez tout. Les exhumations de précieuses reliques attribuées à l'entourage de Harald Ier sont fréquentes, mais la présence d'un marteau de Thor rend la découverte de Rügen intéressante. Selon Brian Patrick Maguire, professeur émérite à l'université danoise de Rockslide. Il n'existe pas de preuve que ces objets ont appartenu à Harald, mais ils témoignent sans nul doute de l'immense richesse de la dynastie de Geling, dont ils descendaient. La fin de règne de ce roi toujours révéré au Danemark fut très chaotique, et on peut penser que des membres de sa cour ont enterré leurs biens dans l'espoir que des jours meilleurs leur permettent de les récupérer plus tard. Et quelle que soit la valeur marchande actuelle de ces joyaux, ils constituent une source d'information inestimable pour les chercheurs qui ne disposent pas ou peu d'écrits de cette période troublée. Merci donc à ce jeune garçon de 13 ans.
« Le jour de la Terre, on en a parlé abondamment le week-end dernier. C'était dimanche et c'est dans le journal Métro qu'il y avait un cahier spécial sur l'événement et j'ai retenu celui-ci. C'est par Luz Lancheros, Metro World News, encore une fois paru dans le journal Métro le week-end dernier. Le jour de la Terre est célébré depuis 1970 aux États-Unis. Cette année-là, préoccupé par de nombreux problèmes environnementaux et sociaux, 20 millions de personnes sont descendues dans les rues pour manifester. Dans la foulée de ce premier jour de la Terre, plusieurs lois et initiatives ont vu le jour au pays de l'Oncle Sam pour prévenir les désastres naturels. En 1990, cette journée est devenue internationale et en 2009, elle a été rebaptisée Journée internationale de la Terre nourricière. Mais au-delà de la dimension institutionnelle de cette initiative, l'organisation qui en est responsable espère que ce soit quelque chose de plus. Au début du siècle, 5000 groupes environnementaux issus de 184 pays ont commencé à exploiter la puissance des réseaux sociaux, parvenant notamment à réunir des milliers de militants pour une immense manifestation à Washington ou à aller au Gabon pour discuter d'énergie propre. 10 ans plus tard, malgré le scepticisme ambiant, le jour de la Terre conservait toute sa pertinence. Plus de 250 000 personnes prenaient part à un rassemblement pour le climat, tandis que l'initiative 1 milliard de gestes verts était lancée dans le but de planter des arbres avec l'aide de 22 000 partenaires dans 192 pays. Plusieurs études, dont une de l'Organisation mondiale de la santé, conclut que près de 92 % de l'eau que nous buvons contient du plastique. Dans tout ce que nous consommons, il y a des microfibres de plastique. Kathleen Rogers, présidente du réseau Jour de la Terre. Tout cela fait de cette journée l'événement laïque le plus important au monde et va bien plus loin que la plantation d'arbres. En fait, l'organisation responsable du Jour de la Terre travaille avec d'autres entités et rédige des initiatives visant à éduquer les populations. Le jour de la Terre est une belle occasion de rendre manifeste les problèmes qui affligent notre planète aujourd'hui et de dire justement qu'aujourd'hui demeure le meilleur moment pour agir. Il est essentiel que les outils permettent aux gens d'appuyer des causes environnementales qu'ils jugent importantes pour leur collectivité. Notre campagne Hagamos Eco cherche ainsi à mobiliser les citoyens et à susciter des changements positifs sur le plan de la protection environnementale, a expliqué à Metro Gonzalo Strano, coordonnateur de campagne chez Greenpeace, l'ONG responsable du lancement en ligne de la plateforme Hagamos Eco. Et les défis sont immenses. Cette année, le Jour de la Terre a pour thème la pollution plastique, un problème dont plusieurs sous-estiment la gravité. Il faut en effet savoir qu'il y a actuellement sur Terre 6,3 milliards de tonnes plastiques et que de ce nombre, 150 millions de tonnes se trouvent dans les océans. Et plus préoccupant encore, on a constaté que les animaux que nous consommons contiennent des particules de plastique. 800. On estime que le poids du plastique qui se trouve dans les océans équivaut à celui de 800 tours Eiffel ou de 14,85 Airbus 380. Vous avez une idée de ce que pèse un Airbus?
J'arrive tout à fait à me représenter ce que c'est.
C'est ça l'idée. Greenpeace met la plateforme Hagamos Eco à la disposition des gens en Amérique latine afin qu'ils puissent dénoncer les méfaits liés à la pollution et chercher des solutions aux problèmes environnementaux. L'organisation tient également des campagnes en Europe pour prévenir la pollution plastique dans les océans, appuyant le mouvement planétaire « Finissons-en avec le plastique, Break Free from Plastic », dans le cadre duquel des centaines d'ONG collaborent pour imaginer un avenir sans pollution plastique et font la promotion de l'économie circulaire, du recyclage, de l'élimination de l'enfouissement des emballages et du recours à des solutions novatrices afin de réutiliser de manière responsable. Mais ce combat est ardu. Chaque seconde, plus de 200 kilogrammes de déchets sont jetés dans les mers. Par ailleurs, de nombreux produits de beauté et d'hygiène qui contiennent des particules de plastique qui finissent dans les mers sont responsables de l'accélération de la production de produits plastiques par 900% par rapport au niveau de 1980. Cela représente plus de 500 millions de tonnes par année. Voilà précisément ce sur quoi travaillent les responsables du Jour de la Terre. Ils souhaitent planter 7,8 milliards d'arbres d'ici 2020 et rendre manifeste, cette année, un fléau qui affecte déjà des millions de personnes quotidiennement.
On te l'annonce un soir d'avril. Tu croyais pourtant ne pas t'être découvert d'un fil. Tu te rappelles que sortir couvert n'était plus qu'une option après tes quelques verres. Juste une dernière fois, pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois, à tes pulsions te pousser et te pèse. Le mal a du vie, le mal a du reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Le maladie rit, la maladie reste. Pour une dernière avant que l'on te jette. En l'air sans capter que c'est ton histoire qui va s'envoler. Juste une dernière fois, pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois, à tes pulsions te pousser et te baise. Le maladie vit, le maladie reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Le maladie rit, la maladie reste. Pour une dernière avant que l'on te jette. Allez deux, se désirer en mourir, mais ne désirez pas crever. Allez deux se désirer en mourir, mais ne désirez pas crever.
Il s'appelle Foé, il nous chantait le maladie.
Nous parlions du problème du plastique juste avant cette pause musicale. J'ai peut-être une solution, enfin j'ai. Des chercheurs, la science, ont peut-être trouvé une solution. La science nous sauvera tous, espérons-le du moins. Pour faire de la bonne science, entre guillemets, il faut des protocoles rigoureux, des scientifiques bien formés et parfois austères, et aussi parfois eh bien, de la chance et du hasard. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Des chercheurs américains et britanniques ont conçu, par hasard, une enzyme capable de détruire du plastique, ce qui pourrait contribuer à résoudre le problème mondial lié à ce type de pollution. Plus de 8 millions de tonnes de plastique aboutissent dans les océans de la planète chaque année, faisant croître les inquiétudes sur la toxicité de ce dérivé du pétrole et sur son impact sur la santé des générations futures et de l'environnement. Malgré des efforts en matière de recyclage, la grande majorité de ces plastiques peut perdurer pendant des centaines d'années. Les scientifiques cherchent un moyen de mieux les éliminer. Des scientifiques de l'université britannique de Portsmouth et du laboratoire national des énergies renouvelables du ministère américain à l'énergie ont concentré leurs efforts sur une bactérie découverte au Japon il y a quelques années et qui répond au doux nom de Ideonella sakaiensis. Elle se nourrit uniquement d'un type de plastique, le polytéréphtalate d'éthylène, le PET, qui entre dans la composition de très nombreuses bouteilles en plastique. Les chercheurs japonais pensent que cette bactérie a évolué assez récemment dans un centre de recyclage car les plastiques n'ont été inventés que dans les années 1940. L'objectif de l'équipe américano-britannique était de comprendre le fonctionnement de l'une de ces enzymes appelée PETase en découvrant sa structure. mais ils ont été un peu plus loin en concevant par accident une enzyme qui est encore plus efficace pour désagréger les plastiques PET, selon les conclusions publiées lundi dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences. Des scientifiques de l'Université de South Florida et de l'Université brésilienne Campinas ont également participé aux expérimentations qui ont débouché sur la mutation par hasard d'une enzyme beaucoup plus efficace que la PETase naturelle. Les scientifiques s'activent désormais à en améliorer les performances dans l'espoir de pouvoir un jour l'utiliser dans un processus industriel de destruction des plastiques. La chance joue souvent un rôle important dans la recherche scientifique fondamentale et notre découverte n'y fait pas exception, a commenté John McKeegan, professeur à l'Université de sciences biologiques à Portsmouth. Bien que l'avancée soit modeste, cette découverte inattendue suggère qu'il y a de la marge pour améliorer davantage ces enzymes, pour nous rapprocher encore d'une solution de recyclage pour la montagne en constante croissance de plastique mis au rebut. On a dans les films les armées de clones, parfois de robots, et bien c'est peut-être une armée d'enzymes qui nous sauvera.
Louis, je vous pose la question, êtes-vous heureux?
Oui, ça va, mais si vous avez des conseils, je suis toujours preneur.
On est toujours ouvert à ça. Eh bien, c'est le cas et c'est ici que ça se passe. Je me réjouis que notre auditoire soit les premiers à acquérir la recette au bonheur.
En exclusivité mondiale sur Canal M.
Oui, on est sur le web, absolument. C'est le meilleur psychiatre au monde qui révèle 6 règles qui vont changer votre vie à tout jamais. C'est paru dans le news.ch le 1er avril dernier. Avec près de 30 livres écrits sur le thème de la psychologie et du développement personnel à son actif et plus d'une centaine d'articles parus dans différents journaux ou magazines russes ou internationaux, c'est le docteur Mikhail Litvak qui est sans doute l'un des psychiatres les plus connus et plus réputés dans le monde. Aujourd'hui, il livre 6 règles à suivre qui, si vous souhaitez, changer votre vie. 30 ouvrages, 50 millions de livres traduits et vendus à travers le monde avec un pareil palmarès. Mikhail Litvak est assurément l'un des psychiatres psychothérapeutes les plus réputés de ces dernières années. En Russie, il est même considéré comme le père de la psychologie contemporaine. À travers ses ouvrages et ses écrits, il tente d'alerter les gens sur les différents blocages psychologiques que ceux-ci peuvent rencontrer durant leur existence et qui les empêchent, au final, de vivre heureux. Voici 6 règles à suivre dans la vie si vous souhaitez vous épanouir, selon le docteur Mikhail Litvak. 1. Le bonheur résulte d'une vie bien organisée. Eh oui, le bonheur n'est certes pas une science, mais il est tout de même plus facile de le provoquer et de l'attirer vers nous si nous menons une vie relativement bien organisée. D'après Mikhail Litvak, il est important de s'occuper d'être énergique et motivé pour expérimenter ces sensations de bien-être et de sérénité tant souhaitées. Ces sensations n'apparaîtront pas toutes seules du jour au lendemain. Il faut les mériter, explique le psychiatre et psychothérapeute russe. 2. N'oubliez pas que vos proches ont le droit d'émettre des opinions différentes des vôtres. Nous avons tendance à oublier ceci, mais les personnes qui partagent notre vie n'ont pas pour obligation de partager les mêmes convictions que nous. C'est également le cas pour nous, rappelle le docteur Mikhail Litvak. Et d'ajouter, nous ne sommes pas obligés d'être en accord sur tout avec nos proches, et heureusement d'ailleurs. Le fait que nous puissions échanger sur nos divergences d'opinion est une richesse que nous sommes censés chérir et cultiver. Les gens ont trop souvent peur de l'inconnu. C'est ce qui les amène à vouloir convaincre à tout prix leurs proches que ce sont eux qui ont raison sur tout. Apprenez à tendre l'oreille et à écouter les autres, vous n'en serez que plus épanouis, car vos proches essaieront à leur tour de vous écouter et de vous comprendre. 3. Apprenez à vivre pour vous et non pas pour les autres. Votre bonheur ne dépend pas de celui des autres. Vous avez dû entendre cette phrase des centaines de fois dans votre vie, et c'est pourtant vrai. Le bonheur est quelque chose de propre à vous, et il n'est censé dépendre que de vous et pas des autres. Pourtant, il arrive souvent que nos humeurs dépendent de ceux qui nous entourent et qu'on se sente affecté par leurs problèmes ou leurs états d'âme. Apprenez à prendre du recul si vous souhaitez vivre et rester heureux. Vivez en fonction de vos envies et de vos humeurs. Ça va, Louis, vous prenez des notes?
Je Je me souviens de tout mentalement, là, j'essaye de tout visualiser.
Quatrième point, apprenez à vous recueillir et à rester seul lorsqu'il le faut. La capacité de quelqu'un à pouvoir se retrouver seul et à pouvoir méditer peut en dire long sur son niveau de maturité. Une personne mature n'aura pas peur de la solitude et n'aura aucun problème à se retrouver seule avec elle-même, bien au contraire. Celle-ci ne cherchera pas à remplir un vide affectif et étant tout le temps en compagnie de quelqu'un. Le bonheur passe parfois par le fait de s'imposer des moments de solitude afin de se réconcilier avec soi et d'apprendre à mieux s'aimer, tout simplement. 5. Soyez votre meilleur ami. Si vous souhaitez être heureux, commencez d'abord par vous valoriser et par vous écouter. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Alors pourquoi n'accordez-vous pas de l'importance à ce que vous pensez? Pour quelle raison ne prenez-vous pas le temps nécessaire pour vous écouter et pour vous rassurer et vous valoriser par vous-même? N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. Faites-le par vous-même pour votre bien-être. Et en terminant, en 6e point, réussissez. Et la rancœur disparaîtra. Le sentiment d'échec génère souvent un sentiment d'insatisfaction et de mal-être profond. Il arrive donc souvent que nous rejetions toutes nos fautes et nos défaites sur le dos des personnes nous ayant fait du mal à une certaine époque de notre vie. Apprenez à pardonner et à lâcher prise. Il ne sert à rien de ressasser le passé et de vouloir tenir pour responsable de nos malheurs toutes les personnes qui nous ont blessés. La seule chose que la rancœur provoque et fait naître en nous, c'est un sentiment de haine dont il est difficile de se défaire dès lors qu'il nous habite, explique le psychiatre russe à ce sujet. Vous êtes heureux maintenant.
Que de sages paroles à mettre en pratique au plus vite. Ça va être compliqué d'enchaîner la deuxième partie d'émission après un tel sujet.
J'ai mis la barre haute, là.
Mais on va y arriver. Je crois en nous. Faisons-nous confiance.
Je suis confiant. Oui.
Nous revenons après une courte pause musicale avec encore plus de sujets intéressants. À tout de suite.
Je
vient d'entendre Fishback et la pièce mortelle.
Alors, nous voilà de retour. De quoi vais-je vous parler ? Allez, on va parler de ça. Je vous emmène à Berlin, où il y a encore quelques vestiges de la Seconde Guerre mondiale et certains assez explosifs, il faut se méfier. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée en plein Berlin, et en plein 2018 surtout. Les forces de sécurité berlinoises ont désamorcé avec succès, vendredi passé, une bombe britannique de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale après avoir dû évacuer une partie du centre-ville de la capitale allemande, dont des ministères. Bon boulot, la bombe a été désamorcée, tout le monde peut regagner son bâtiment, a tweeté la police en milieu de journée. Elle a ensuite partagé sur le réseau social une photo de la bombe encore fumante, sortie de terre et posée sur une balette en bois. Un gros bébé, comme on dit. La bombe de 500 kg, qui n'a pas explosé à l'époque, fait environ 110 sur 45 cm. C'est donc un objet assez important qui pourrait potentiellement faire beaucoup de dégâts dans la ville. Trouvée par des ouvriers sur un chantier au cœur de la capitale allemande, près de la gare principale, l'engin était jugé sûr par la police. Les démineurs n'ont eu qu'à faire exploser le détonateur et pas la bombe elle-même. Les autorités ont dû néanmoins, dès le matin par précaution, évacuer tous les bâtiments dans un périmètre de 800 mètres autour du lieu de la découverte. Selon la police locale, quelques 10 000 personnes ont été concernées par cette évacuation. « La police était passée ce matin à 9h à la maison pour nous dire de quitter le bâtiment », a expliqué Essen Koskun, une quinquagénaire installée dans l'une des deux écoles où les autorités avaient prévu d'accueillir jusqu'à un millier de personnes. Mais dans ce local, seule une dizaine de personnes étaient présentes vendredi matin, beaucoup ayant pris leurs précautions en amont. Un grand nombre d'employés du quartier sont ainsi restés chez eux, à l'instar du ministère de l'économie dont le siège est situé dans le périmètre de sécurité. Environ 1000 personnes étaient concernées au ministère, certaines ont pu travailler dans d'autres bâtiments, d'autres depuis chez elles, ou certaines ont pris une journée de congé. Un hôpital militaire, le gigantesque complexe en travaux des services de renseignement, le musée d'art contemporain Hamburgenbahnhof et celui de médecine faisaient également partie de cette zone évacuée. Les transports ont été perturbés car la principale gare de la ville, Hauptbahnhof, utilisée par 300 000 voyageurs quotidiens, se trouvait à l'intérieur du périmètre également. Mais dès la réouverture au public, la gare, juste après le désamorçage de la bombe, les voyageurs s'y sont à nouveau engouffrés dans le calme. Aussi impressionnante que soit la situation, l'Allemagne a une grande expérience de ce type d'événement, les découvertes de bombes de la Seconde Guerre mondiale étant relativement courantes. Les engins lâchés par les Alliés à l'époque et n'ayant pas explosé provoquent toujours des opérations impressionnantes. La plus grosse évacuation du genre depuis 1945 a eu lieu l'an passé, en septembre 2017, à Francfort, où une énorme bombe britannique dotée d'une charge explosive de 1,4 tonnes avait été retrouvée. Ce sont quelque 65 000 habitants qui avaient dû quitter leur domicile. Si généralement ces engins peuvent être désamorcés, dans de rares cas, une explosion dite « contrôlée » doit avoir lieu. Celle-ci peut provoquer des dégâts importants, comme en 2012 à Munich, lorsque des centaines de vitres et fenêtres avaient été soufflées par un explosif trop instable et qui avait dû être détonné de nuit. Drôle de choix d'ailleurs de nuit. Berlin a connu pendant la guerre une campagne d'intenses bombardements, en particulier au printemps 1945, avec un tiers des habitations de la ville détruites et des dizaines de milliers de morts. Des milliers d'engins avaient fait long feu, ont été découverts depuis, quelques 3000 autres resteraient dans les sous-sols berlinois, selon les experts. La partie de Berlin concernée par l'évacuation de vendredi est une zone qui a été considérablement développée depuis la chute du mur en 1989. Le lieu où la bombe a été retrouvée n'est qu'à quelques centaines de mètres du centre politique et touristique, notamment la chancellerie, le bureau d'Angela Merkel et du Reichstag, où siègent les députés allemands. Voilà, problèmes d'hier qui deviennent des problèmes d'aujourd'hui. Il en reste encore quelques-unes, donc probablement que si vous habitez Berlin, il faut se tenir prêt à évacuer de temps en temps.
Le jour de la Terre, c'est important, on en parle, je rebondis sur le sujet malgré nos deux autres sujets tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu en complément. C'est toujours, c'était diffusé dans le, écrit, c'est-à-dire dans le, publié dans le journal Métro la semaine dernière. C'est un échange entre la journaliste et Kathleen Rogers, présidente du réseau du Jour de la Terre. Que faites-vous pour que le Jour de la Terre soit plus qu'une initiative environnementale parmi tant d'autres? Nous collaborons à l'échelle internationale avec 192 pays, des ONG, des gouvernements, des maires, des professeurs et de grandes entreprises, ainsi qu'avec d'autres groupes. 1 milliard de personnes dans le monde participent au Jour de la Terre et nous travaillons avec des volontaires dans des écoles de plusieurs pays afin que les gens participent non seulement au Jour de la Terre, mais s'impliquent également localement. Chaque année, nous avons un thème. Cette année, c'est la pollution plastique et son incidence sur les océans. Il y a du plastique qui se trouve dans notre organisme, car il y en a dans l'eau que nous utilisons et buvons aussi. De nombreuses agences de santé, des chercheurs et même des industries ont pris conscience de la gravité du problème. Ils savent que celui-ci est responsable notamment de la précocité, de la puberté et de la résistance à l'insuline qu'induisent certains cancers. La recherche découvre sans cesse des choses désespérantes sur ce type de pollution. Nous souhaitons donc sensibiliser les gens à ce problème et à leur proposer des solutions. Tout comme le plastique qui n'a été produit sur Terre, qui a été produit sur Terre continue à exister comme tel, il ne disparaît pas, il n'y a aucun moyen qu'il devienne une partie de l'environnement, il ne peut pas être absorbé. Plusieurs fondations luttent déjà contre la pollution plastique. Nous faisons partie de la Global Plastic Pollution Coalition et nous œuvrons en Asie, en Europe, en Amérique latine. Nous formons des groupes de discussion qui se penchent sur cet enjeu. Parfois, nous suivons leurs directives ou certaines questions qui nous semblent importantes et nous consultons aussi nos réseaux de soutien. Nous consacrons beaucoup d'efforts à promouvoir ce que d'autres font et nous éduquons les gens, mais aussi les entreprises, sur ce sujet afin qu'ils cessent d'utiliser du plastique et le remplacer par d'autres types de produits aussi abordables. En quoi consiste votre coalition avec les gouvernements? Les politiques publiques sont très importantes. En Inde, nous menons un projet avec le gouvernement afin de décourager l'utilisation des plastiques par l'instauration d'une taxe. Nous ne voulons pas imposer aux consommateurs des sommes importantes, seulement quelques cents, et ce, pour qu'ils prennent conscience qu'il est dans leur intérêt de découvrir des produits de remplacement comme des sacs à provisions. Et nous devons expliquer aux gens comment tout cela menace l'existence même de notre planète. L'industrie sait à quel point le plastique est un problème grave, mais personne ne la presse de faire quoi que ce soit et continue donc à en fabriquer. Sans parler de ce que ces produits font aux enfants dans les pays plus pauvres, à leur santé, aux conséquences qu'ils ont sur eux quand ils atteignent la puberté. Nous devons nous concentrer sur cela. Et ce n'est pas uniquement mon idée. De nombreuses personnes travaillent là-dessus depuis longtemps et personne ne les a écoutés. Ce sont de véritables pionniers. Et finalement, comment peut-on voir le Jour de la Terre comme quelque chose de plus qu'une journée officielle? Ce n'est pas grave si les gens la voient comme une simple journée internationale, tant qu'ils modifient leurs habitudes, leurs attitudes et leurs comportements à l'égard de l'environnement afin d'en prendre davantage soin. Le Jour de la Terre est une belle occasion pour commencer à réaliser de grandes choses et à en faire davantage pour aider, s'impliquer et apprendre au sujet du fléau qu'est la pollution plastique.
Il y a un type d'événement que j'aime bien suivre pour pouvoir vous lire des articles intéressants, étonnants, surtout insolites. Ce sont les ventes aux enchères, où on y trouve toutes sortes de choses. Si donc vous avez beaucoup d'argent à investir, quoique aujourd'hui c'est assez abordable, je pense, comparé à d'autres ventes aux enchères dont j'ai pu vous parler, eh bien voici. Envie d'un tapis roulant à bagages, un terminal Heathrow mis aux enchères. Londres. Un large panneau des douanes, rien à déclarer, un escalier roulant ou un tapis roulant à bagages. Voici quelques-uns des lots qui sont plutôt mis en ce moment aux enchères dans le cadre du démantèlement de l'ancien terminal 1 de l'aéroport londonien Heathrow. Plus de 200 lots sont proposés depuis le 21 avril pour cette vente inédite qui comprend également des bureaux de contrôle, des passeports, des ascenseurs ou des œuvres commandées par l'aéroport au peintre polonais et ancien pilote de la Royal Air Force, Stefan Knapp. Une vente comme celle-ci, incluant tout le contenu et l'infrastructure d'un grand terminal aéroportuaire, est sans précédent, a souligné Daniel Gray, l'un des dirigeants de CA Global Partners qui organise ses enchères dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Certains de ces objets ont une grande valeur historique. Ils pourraient être utilisés comme meubles dans des boîtes de nuit ou d'autres lieux de ce genre, a-t-il ajouté, s'attendant à ce que la vente suscite beaucoup d'intérêt. Il estime que certains aéroports de petite taille pourraient également chercher à acquérir des lots. Mis en service en 1968 et inauguré l'année suivante par la reine Elisabeth II, le terminal 1 d'Heathrow a fermé en 2015 pour permettre le réaménagement de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe avec plus de 67 millions de passagers annuels, ni plus ni moins que la population française. Donc voilà, si jamais vous avez des envies ou des idées, il faudrait avoir des idées aussi pour reconvertir un plateau tournant à bagages. Je verrais aussi ça dans un salon avec des bibelots, moi.
Ben dans une boîte de nuit, certainement, je trouve oui, ça intéressant. Ça, un oui. restaurant aussi, un grand restaurant, ça pourrait être chouette.
Avec des énormes sushis dessus, comme on voit parfois.
Pourquoi pas, Louis, pourquoi?
Sait-on jamais.
Jean-Charles étant absent, on va profiter de ces sujets. Je les emprunte pour quelques semaines.
On pille la caisse.
Voilà. On est des beaux profiteurs, Louis. Je vous amène à New York. Les voitures bientôt bannies de Central Park. Les voitures seront complètement interdites d'accès à Central Park à partir de fin juin. C'était annoncé vendredi par le maire de New York, Bill de Blasio, qui dit vouloir donner la priorité à la sécurité et la santé de ses visiteurs, piétons et cyclistes. C'est un article qui a été publié le 20 avril dernier, Agence France-Presse, New York. Si la circulation était déjà interdite au nord du célébrissime parc de Manhattan, qui fête l'an prochain ses 160 ans, des véhicules pourraient encore rouler sur les voies bétonnières du sud, West Drive, Terrace Drive et Center Drive. La décision ne concerne pas, en revanche, les quatre voies dédiées qui servent le parc dans sa longueur. Plusieurs mètres en dessous du niveau où circulent les piétons, séparés du reste du lieu par des murs. Nos parcs sont pour les gens, pas pour les voitures, a commenté Bill de Blasio, cité dans un communiqué vendredi. Durant plus d'un siècle, les voitures ont transformé en autoroute certaines parties du parc le plus célèbre au monde, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, nous en reprenons possession. Nous donnons la priorité à la sécurité et à la santé de milliers de parents, d'enfants et de visiteurs qui se rendent à Central Park. L'interdiction deviendra effective le 27 juin, au lendemain de la fin de l'année scolaire des écoles publiques de New York. En janvier, le maire avait pris la même décision pour Prospect Park, parc emblématique de Northwest de Brooklyn, dessiné comme Central Park par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux.
Et si Central Park va fêter ses 160 ans, il existe encore quelques personnes sur cette terre qui, alors, ne sont pas là depuis la création du parc, mais en tout cas, en ont connu la plus grande partie. Je vous parle du nouveau doyen de l'humanité, et pour cela, eh bien, sans trop vous surprendre, on va se rendre au Japon. Un Japonais de 112 ans, reconnu nouveau doyen de l'humanité. C'est un Japonais donc de 112 ans, Masazo Nonaka, a annoncé le Guinness des records mardi, il y a deux semaines, tandis que sa famille révélait les secrets de longévité. Son faible pour les sucreries et les longs bains dans les sources d'eau chaude. Né le 25 juillet 1905, le vieil homme a reçu un certificat officiel dans sa maison de Hokkaido, la grande île japonaise du nord du pays. Il succède à un Espagnol, Francisco Nunez Oliveira, décédé en février à l'âge de 113 ans. Le centenaire vit avec sa famille, qui gère un ryokan. C'est une auberge traditionnelle où les visiteurs peuvent se prélasser dans des onsen, des sources volcaniques chaudes. Il se déplace en fauteuil roulant, mais est en bonne condition, a raconté Yuko Nonaka, sa petite-fille. Il adore manger toutes sortes de bonbons japonais ou de style occidental, a-t-elle dit. Il lit les journaux tous les jours et se baigne souvent dans des onsen. Il a 7 frères et sœurs qui habitent à proximité, selon le Guinness. Marié en 1931, il a eu 5 enfants. Le Guinness des records mène par ailleurs des recherches pour identifier la doyenne de l'humanité qui reste inconnue après le décès de la Jamaïcaine Violette Brown, 117 ans, en juillet 2017. Le Japon, connu pour sa longue espérance de vie, décidément je bute sur ce mot, de ses habitants, peut se prévaloir d'avoir été le pays de plusieurs doyens, dont Jiroméon Kimura ou Sakari Momoi. Il y avait environ 68 000 centenaires répertoriés au Japon l'an dernier, selon les statistiques officielles. Rappelons que le record de longévité, pouvant être prouvé officiellement tous sexes confondus, est toujours détenu par la France, par la Française Jeanne Calment, décédée en 97 à l'âge de 122 ans et 164 jours, record en cours donc toujours. États-Unis à présent. États-Unis, client très content pour boire géant. Un client, vraiment content apparemment, a laissé quelques 2 000 $ de pourboire, soit plus de 2,5 fois le prix de son repas, après avoir dîné dimanche dans un restaurant chic de Chicago. Le restaurant Boca, doté d'une étoile au guide Michelin et qui se décrit comme un établissement servant des plats de saison américains, a publié sur Instagram une photo de ce client, simplement identifié comme Mike, visiteur venu de Seattle. Il pose avec le personnel de cuisine tout sourire, vous vous en doutez, et lève les pouces en signe de satisfaction. Après avoir laissé un pourboire initial de 300 $ pour une note de 759 $ tout de même, il est allé en cuisine pour donner 100 $ à chacun des 17 employés, a expliqué le restaurant. Alors qu'aux États-Unis, un pourboire peut aller d'ordinaire jusqu'à 20% du prix du repas, celui-ci représentait 260%. C'était surprenant que cela se passe au hasard et de manière inattendue et que quelqu'un montre tant de reconnaissance, a déclaré le directeur du restaurant. Il ne s'agit pas que d'argent, mais aussi de passer du temps avec le personnel en cuisine et lui dire combien le repas était délicieux et combien le travail des cuisiniers était important, a-t-il poursuivi. L'affaire tombe à pic pour le restaurant, qui avait été sélectionné parmi les candidats au James Beard Award, un prix couronnant le service qui sera décerné le 7 mai à Chicago. Les aînés, décidément, au cœur de nos sujets aujourd'hui. Je vous parle d'une dame, une Mexicaine, qui a une jolie histoire. Une Mexicaine de 96 ans réalise son rêve de point aller à l'école. Guadalupe Palacios, une Mexicaine de 96 ans, a réalisé cette semaine son rêve en entrant à l'école secondaire après avoir appris à écrire il y a 4 ans seulement. Lundi, pour son premier jour de classe dans une école de l'État pauvre de Chiapas, elle a détonné parmi les élèves, qui pourraient bien être ses arrière-petits-enfants, se faisant remarquer non seulement par ses cheveux blancs, mais aussi par son enthousiasme. « Je me sens prête à tout donner, aujourd'hui c'est un jour merveilleux », a déclaré la nouvelle étudiante, vêtue de l'uniforme de l'école, une jupe noire et un polo blanc, auquel elle a ajouté sa touche personnelle, un pull rose avec des perles. Donna Lupita, comme elle est surnommée affectueusement, a été accueillie par une ovation dans l'école numéro 2 de Tuxtla Gutiérrez, capitale de l'État. Une fois assise à son pupitre, elle a pris scrupuleusement des notes des cours de chimie et mathématiques, puis a même participé aux cours de danse régionale. Guadalupe a grandi dans la pauvreté dans un village indigène et a passé son enfance à aider sa famille à cultiver du maïs et des haricots au lieu d'aller à l'école. Devenue ensuite vendeuse de poulets sur les marchés, elle s'est mariée 2 fois et a eu 6 enfants. Pour la vieille dame, le déclic s'est produit quand elle a fêté ses 92 ans et décidé d'enfin apprendre à lire grâce à un programme d'alphabétisation. Rieuse, elle raconte « Maintenant, je peux écrire une lettre à mes petits amis. » En 2015, elle est entrée à l'école primaire et a suivi le programme en accéléré. Son rêve est de terminer l'école avant ses 100 ans et de devenir institutrice de crèche. Ils m'ont demandé si je voulais poursuivre jusqu'à l'université et j'ai dit non, parce que je ne peux plus vraiment marcher par moi-même en fait, confie l'étudiante rieuse. Parlons musique à présent. Le site qui permettait d'écrire comme Cohen ou d'autres a déjà cessé ses activités. Un site conçu pour permettre d'imiter l'écriture de célèbres auteurs-compositeurs, dont Leonard Cohen, a été forcé de se débrancher. Les créateurs de la plateforme web songwritersfonts.com ont affiché mercredi il y a 2 semaines un message sur leur page mentionnant que leur succès avait causé leur perte. D'après le message d'adieu intitulé « Hello, goodbye », les propriétaires de droits d'auteur auraient communiqué avec les créateurs du site pour faire valoir leurs droits. Pour des raisons juridiques, ils ont donc été forcés de désactiver leur outil web dont, je cite, « l'unique but était d'inspirer les musiciens et la nouvelle génération d'auteurs-compositeurs à faire travailler leur imagination », assurent les idéateurs. Le site songwritersfonts.com avait numérisé l'écriture courante de grands artistes de la chanson comme John Lennon, David Bowie, Kurt Cobain et Serge Gainsbourg. L'écriture avait été transformée en police d'impression à partir de lettres et de notes manuscrites. Ces polices pouvaient être téléchargées et utilisées à des fins personnelles seulement, prévenait-on. C'est fini, désormais. Si vous voulez avoir de bonnes idées, ben, ayez-les tout seul. Et une dernière petite insolite pour achever cette émission, ça pourrait faire l'objet d'une scène de film, assurément. 22 wagons d'un train indien bondé qui s'était détaché de la voiture motrice sont partis en marche arrière pendant 12 km avant d'être stoppés, heureusement, a indiqué dimanche il y a 2 semaines le ministère des Transports ferroviaires. Quelque chose d'horrible aurait pu arriver et cela a été empêché par un personnel vigilant. Tout le monde au ministère est atterré et choqué, en précisant qu'aucun passager n'a été blessé. Samedi soir, les wagons où avaient pris place environ 1000 passagers ont parcouru 12 km en arrière avant d'être arrêtés à l'aide de blocs de pierre placés sur les rails. L'incident s'est produit à Titlargar, dans l'état d'Odisha. 7 employés de la compagnie ferroviaire qui n'ont pas suivi les règles de procédure ont été suspendus et une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi les wagons se sont séparés de la locomotive de tête. Tout le monde va bien. Ouf.
Ah! Ben voilà, rassuré.
C'est la fin de cette émission, une grande émission, le secret du bonheur, ça restera. On va surveiller dans les jours qui viennent la presse qui va parler de nous, c'est certain. On a annoncé ça au monde, Jean-François, rendez-vous compte.
Oui, je pense que c'est très, très... on a de quoi se réjouir. Et je tiens à mentionner que mon article sur la jeune fille qui habite en résidence pour personnes âgées m'a été proposé par le collègue Maurice Bolduc, qui est juste de l'autre côté de la fenêtre ici.
Et qui est juste derrière de l'autre côté de la fenêtre et que nous remercions pour la mise en onde. Ouais. Les choix musicaux, comme d'habitude. Merci également à vous, Jean-François Roy.
C'est un grand plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine.
Assurément.
Pour d'autres sujets, pour d'autres secrets que nous allons dévoiler. Tenez-vous prêts. C'était Louis Bernis et je serai également là la semaine prochaine, mardi prochain. D'ici là, bonne semaine. Portez-vous bien.